RFI minuit à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité française.
Christophe Paget.
À la une, le salon aéronautique du Bourget en banlieue parisienne. Le gouvernement interdit les accès aux stands de plusieurs industriels israéliens en raison de la situation à Gaza. Le gouvernement israélien est furieux. À suivre le reportage de Justine Fontaine. Pour ce qui est du conflit Israël-Iran, nous verrons comment le dispositif militaire français reste en alerte au Moyen-Orient. Israël peut donc le solliciter pour défendre son territoire, ce qui suscite des critiques en France à gauche. On entendra aussi cet appel lancé par une délégation française de retour de Syrie. Paris doit rapatrier les enfants et les jeunes majeurs français qui y sont encore détenus. Ce que Paris ne fait plus depuis sa dernière opération, c'était il y a presque 2 ans.
24 heures en France.
Dans une quinzaine de minutes, on reviendra sur ces tombes de harkis déplacées du camp de Rivesaltes dans le sud-ouest de la France sans que les familles n'aient été mises au courant. 5 d'entre elles ont porté plainte. Enfin, le Conseil Santé nous dira comment trouver notre place dans notre famille.
RFI.
Ce lundi, le salon aéronautique du Bourget a ouvert ses portes en banlieue parisienne. Et il s'est ouvert sur une polémique, puisque les accès aux stands de plusieurs industriels israéliens ont été fermés. Explication du Premier ministre qui était à l'ouverture du salon. La situation à Gaza, moralement inacceptable, impose de marquer réprobation et distance. Le ministre israélien de la Défense parle d'une décision scandaleuse et sans précédent qui sent les considérations politiques et commerciales. Le reportage au Bourget de Justine Fontaine.
De hautes palissades noires clôturent les stands d'Elbit Systems, d'IAI ou encore de Raphaël, qui font partie des plus grandes entreprises israéliennes du secteur. Shlomo Toaf, vice-président de Raphaël, fabricant de missiles notamment, est indigné.
Un de nos employés a appelé les organisateurs. On lui a dit que c'était une demande du gouvernement français. C'est étrange car la semaine dernière, un tribunal français qui avait été saisi a conclu que nous pouvions participer au salon. Malgré cette décision, le gouvernement ne nous laisse pas monter notre stand. C'est scandaleux.
Le Premier ministre français François Bayrou, qui a inauguré le salon aujourd'hui, assure que la décision a été prise car des armes offensives allaient être présentées, contrairement, selon la France, à ce qui avait été convenu avec Israël en amont du salon. Sur l'un des stands clôturés, on aperçoit encore un logo « Combat Proven », testé au combat, autrement dit utilisé à Gaza, en Cisjordanie ou encore au Liban. C'est l'un des arguments commerciaux habituellement mis en avant par les entreprises israéliennes pour vendre leurs armes et systèmes de défense. Un argument qui se retourne aujourd'hui contre elles en raison des accusations de génocide à Gaza.
Justine Fontaine et la guerre menée à Gaza par Israël continuent de faire réagir sur le territoire français où les politiques affichent leur désaccord. À Marseille, des élus et des militants de gauche demandent que la cité phocéenne mette fin à son jumelage avec la ville israélienne d'Haïfa, parlant d'un territoire israélien qui est lié à un état génocidaire. Refus du maire d'hiver gauche, Benoît Payan, qui estime qu'il serait injuste de punir Haïfa. Autre conflit à s'inviter en France, celui entre Israël et l'Iran. Ce lundi, les deux pays ont continué à échanger des tirs de missiles. Alors comment la France doit-elle se positionner? Pour l'instant, Paris s'en tient à son communiqué de vendredi, dans lequel Emmanuel Macron appelle à la désescalade, tout en réaffirmant le droit de l'État hébreu à se défendre et à assurer sa sécurité. Le chef de l'État a également demandé à Téhéran de revenir à la table des négociations sur son programme nucléaire. Le dispositif militaire français reste, lui, en alerte au Moyen-Orient. Il est donc susceptible d'être sollicité par Israël pour défendre son territoire. Et c'est un positionnement qui suscite interrogations et critiques à gauche. Aurélien Devernois.
Si, du Rassemblement national jusqu'au rang républicain et macroniste, l'idée d'un soutien de principe à la défense d'Israël fait consensus, c'est beaucoup moins évident pour le député apparenté écologiste Pouria Amir Chahi.
Comment imaginer une seule seconde que la République française donne une suite favorable à une demande d'aide militaire de la part d'un homme, M. Netanyahou, qui est recherché par la Cour pénale internationale?
D'où la nécessité, selon lui, d'impliquer les parlementaires dans le processus de décision.
Il ne saurait y avoir d'aucune façon un engagement ou même un désengagement ou un non-engagement de la France, a fortiori dans un conflit militaire, sans qu'il n'y ait eu l'aval du Parlement. C'est en principe
une position soutenue par la présidente du groupe d'amitié France-Iran à l'Assemblée nationale, la députée socialiste Aïda Adizadeh, qui s'inquiète des conséquences potentielles de la position française.
Moi, j'ai de la famille en Iran. Je pense aussi aux otages français qui sont encore en Iran aujourd'hui. J'ai entendu leur famille qui est extrêmement inquiète. J'aurais aimé qu'Emmanuel Macron soit beaucoup plus ferme dans le rappel du respect du droit international.
Le Parti socialiste pourrait ainsi demander ce mardi l'organisation d'un débat à l'Assemblée nationale afin que le gouvernement clarifie sa position et s'engage à demander l'approbation du Parlement en cas d'intervention militaire française.
Aurélien Devernoy. Ce mardi, ce sera le dernier jour du conclave sur les retraites. Et François Bayrou a confirmé qu'il avait proposé aux syndicats et aux patronats l'idée d'une prime pour les salariés seniors qui décideraient de continuer à travailler. Il s'agirait de leur verser une partie de leur retraite en plus de leur salaire. C'est une idée que j'ai émise et que je vais examiner avec les partenaires sociaux, indiquait le Premier ministre qui a dit être prêt à leur accorder un délai supplémentaire pour s'entendre. RFI, 1h06 à Damas. La France doit rapatrier les enfants et les jeunes majeurs encore détenus en Syrie. C'est l'appel pressant lancé par une délégation française composée d'associations, d'un eurodéputé et d'avocats. Elle vient de rentrer d'une visite en Syrie, du camp de Roj et de deux centres de réhabilitation. Car depuis la défaite du groupe État islamique il y a 5 ans, les forces kurdes contrôlent des camps et des prisons où sont retenues des milliers de personnes soupçonnées de liens avec l'EI. La délégation française a ramené de Syrie les demandes de rapatriement de 23 personnes, dont 12 mineurs et 7 jeunes majeurs. Et elle dénonce le refus des autorités françaises de faire revenir ses ressortissants, ce qu'elle a arrêté de faire en fait après sa dernière opération, c'était en juillet 2023, et alors que de nombreux autres pays, eux, ont continué de le faire. Écoutez l'avocate Marie Dauzet.
La situation juridique, elle est très simple. La France a été condamnée par le Comité international des droits de l'enfant, le Comité contre la torture des Nations unies, la Cour européenne des droits de l'homme, le Tribunal administratif de Paris, la Cour administrative d'appel. Donc je pense qu'il est peut-être temps, dans un état de droit, que l'on respecte les décisions de justice. En l'occurrence, on persiste à ne pas le faire, puisqu'on continue à motiver n'importe comment les décisions de refus de rapatriement, et notamment en expliquant que c'est beaucoup trop compliqué et même dangereux pour des militaires d'aller là où nous sommes allés. L'Ukraine a rapatrié le mois dernier. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un pays en guerre a rapatrié des enfants du camp Roj et que nous, en France, on explique que c'est pas possible? Est-ce que ça, c'est pas une honte? Donc, encore une fois, le droit doit être respecté et ces enfants et ces jeunes majeurs qui sont en grande souffrance doivent être rapatriés. Aujourd'hui, la France ose refuser les rapatriements en disant « Ben oui, mais ils sont devenus majeurs, or l'arrêt de la Cour européenne ne concerne que les mineurs. » Attendez, il ne s'agit que d'enfants qui ont grandi. C'est-à-dire que la France, désormais, depuis 7 ans, 6 ans, refuse des rapatriements. Et évidemment, les enfants deviennent des adolescents et les adolescents deviennent des adultes. Donc c'est tout ce cynisme-là qui doit prendre fin sur cette question.
Marie Dauzet au micro de Laura Martel. Au total, une cinquantaine de femmes françaises et quelques 120 enfants sont encore détenus en Syrie. S'attaquer au planning familial, c'est une attaque sexuelle contre les droits sexuels et reproductifs. L'association féministe du planning familial, qui milite pour un accès à la contraception gratuite et à l'avortement, a dénoncé ce lundi une baisse de financement public qui risque d'entraîner des fermetures de ces centres de santé sexuelle qui sont présents dans tout le pays, y compris les départements et régions d'outre-mer. 9 associations du réseau sont concernées pour le moment. Cela va d'une baisse de 10% des subventions dans le département du Loiret à une disparition pure et simple de celle du Conseil régional des Pays de Loire. C'était la grande nouvelle de la soirée hier, le départ surprise de Luca de Meo de la direction de Renault, le constructeur automobile français qu'il dirigeait depuis 5 ans. Un départ mal accueilli par les syndicats du groupe qui expliquent être tombés de leur chaise devant cette annonce qui se produit alors que Renault, comme le secteur automobile dans son ensemble, sont en pleine transformation. Un secteur que quitte d'ailleurs complètement Luca de Meo, qui devient directeur général du géant du luxe français Kering, propriétaire entre autres de Gucci, Yves Saint Laurent ou encore Balenciaga. Et il arrive, Luca de Meo, dans un contexte difficile, comme ça avait été le cas il y a 5 ans chez Renault, après l'affaire Carlos Ghosn. Le groupe Kering, lui, est plombé par la chute de Gucci. Myriam Berber.
Kering enregistre un recul de 14% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à près de 4 milliards d'euros. Le numéro 2 mondial de l'industrie du luxe est pénalisé par sa marque principale, Gucci, qui peine à se redresser avec une baisse de 25% de ses ventes. Le début de l'année a en effet été marqué par un recul des ventes en Chine, au Japon, en Europe et aux États-Unis. Un ralentissement dû également à la guerre commerciale de Donald Trump qui a déstabilisé le secteur du luxe. Relancer Gucci, la mission de son nouveau directeur général s'annonce difficile. La marque, qui représente aujourd'hui les deux tiers de la rentabilité de Kering, est confrontée à une lourde dette. Pour renforcer sa trésorerie, le géant du luxe a vendu récemment certains de ses actifs immobiliers new-yorkais et a réduit son réseau de magasins. Outre Gucci, les autres marques de Kering traversent également une période compliquée. Les ventes de Saint-Laurent ont ainsi reculé de 10%.
Myriam Berber, le rapport annuel sur la pollution atmosphérique en France vient de sortir. D'après le CITEPA, l'association qui s'occupe des inventaires nationaux d'émissions de gaz à effet de serre, la tendance est toujours à la baisse. Tous les grands secteurs participent à cette réduction, mais uniquement sur le territoire national. Juliette Pietraszewski.
Selon les données du CITEPA, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 1,8% entre 2023 et 2024. Chaque habitant du territoire français émettrait donc 5,4 tonnes de CO2, soit l'équivalent de plus de 5 allers-retours Paris-New York en avion par passager. Les grands secteurs émetteurs participent à cette baisse à différents niveaux d'après le CITEPA. L'industrie de l'énergie et l'industrie manufacturière sont les secteurs qui ont le plus réduit les émissions. Le transport routier est le secteur premier émetteur de gaz à effet de serre en France. Il représente près d'un tiers des émissions totales. Les émissions associées aux bâtiments, elles, avaient réalisé une baisse importante de près de 10% entre 2022 et 2023. Mais cette baisse en question n'est désormais plus que de 0,7% entre 2023 et 2024. Mais ce bilan reste à nuancer. Si la tendance des émissions de CO2 est à la baisse en France, elle ne prend pas en compte les objets fabriqués à l'étranger puis importés en France pour être consommés par la population. C'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone et celle de la France est 70% plus élevée que ses émissions territoriales.
Juliette Pietraszewski, RFI, minuit 11 à Paris, 1h11 à Jérusalem.
24 heures en France. Christophe Paget.
On va maintenant s'intéresser à un film israélien, Oui, du réalisateur Nadav Lapid. Nadav Lapid, c'est un des quelques artistes israéliens à pouvoir rayonner à l'international et faire entendre une note discordante, alors que les voix opposées à la politique du Premier ministre Benjamin Netanyahou se font rares. En mai dernier, au Festival de Cannes, avant le début du conflit ouvert avec l'Iran, mais alors que la guerre à Gaza contre le Hamas battait son plein, comme aujourd'hui, Nadav Lapid présentait son film à Sophie Torlotin, Oui, est un véritable brûlot politique. On y rencontre un musicien de jazz résigné, soumis, évoluant dans une société ivre de vengeance.
Bonjour Nadav Lapid.
Bonjour, bonjour.
Le personnage principal de votre nouveau film, qui est un compositeur, un musicien de jazz, se voit offrir de composer un nouvel hymne patriotique. On est après le 7 octobre 2023. On est pendant la guerre menée en représailles par Israël à Gaza. En général, on dit qu'il est plus difficile de dire non que oui.
Mon personnage principal, c'est pas seulement que c'est quelqu'un qui dit oui et pas non, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse pas du tout à la politique. En fait, c'est quelqu'un qui voulait être le héros d'une comédie musicale et qui se trouve presque contre sa volonté, mais à force de ne pas être capable de dire sa volonté, à force de s'adhérer toujours à la volonté des autres, se trouve le héros d'un film politique et d'un film politique extrême.
New York Times.
Sonnet Israël.
Mercaz Pompidou.
Sonnet Israël.
Finalement, il dit oui à la composition d'un nouveau hymne national israélien, l'hymne national d'Israël post-octobre, un hymne de vengeance.
Les paroles sont extrêmement brutales. Enfin,
les paroles sont extrêmement brutales, mais c'est pas moi qui les ai inventées. Cet hymne est en fait une véritable chanson créée, écrite par une association composée de toutes sortes de gens de la pub, de consultants politiques, de gens d'ailleurs qui viennent vraiment du centre du plan politique du pays, pas du tout des marginaux ou des extrémistes, et qui ont quelques semaines après le 7 octobre pour remonter la morale du peuple. Composer cette chanson odieuse. Et ce que je trouve même peut-être plus fou, mais très fidèle en fait à leur logique, c'est qu'ils ont filmé des enfants qui chantent cette chanson, une chanson pour la génération de la victoire. Et la victoire est l'extermination des Palestiniens, c'est évident.
Et oui, c'est ce que disent en grande partie les Israéliens en ce moment à la politique de Netanyahou. On a quand même des voix dissonantes, on va dire. Il y a quand même encore une opposition, encore des gens qui disent non.
Il y a un Israël en clivage contre Netanyahou, pour Netanyahou. Mais en Israël, il y a des manifestations pour la libération des otages, contre, je ne sais pas, la corruption de Netanyahou. Mais un pays qui est en train de commettre les pires, Il y a très peu des hommes politiques en Israël qui diront « ce qui se passe à Gaza, c'est horrible ». La maladie en Israël est très profonde et je pense que ça va au-delà de ces questions de pour Netanyahu ou contre Netanyahu. Ce film a été tourné en pleine guerre, qui continue évidemment, mais en pleine guerre, avec des missiles qui tombent autour. Quand on a tourné sur la colline face à Gaza, la fumée montait, enfin on recouvrait Gaza et notre bande sonore est remplie de dizaines de milliers de bruits d'explosion. Et je pense que c'est une tentative, ce film est une tentative dans ce sens-là de convoquer le cinéma et tout ce que le cinéma peut avoir, tous ces couleurs, tous ces sons, toutes ces mises en scène, toutes ces scènes, tous ces genres, comme j'ai dit, comédie musicale, film d'amour, film romantique, film politique, film d'horreur, film de fantasme, puisque la réalité en Israël est à la fois folle, une réalité stéroïdée, sous stéroïde, et à la fin, elle est simple et terrible.
Le réalisateur Nadav Lapid au micro de Sophie Torlotin, son film Oui sortira en salle en France en septembre prochain. Vous connaissez l'histoire des Harkis, ces musulmans qui ont combattu auprès de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Une histoire douloureuse qui a été ravivée l'an dernier par l'affaire des tombes disparues. Après la guerre, quelques 90 000 Harkis et leurs familles doivent quitter leur pays où ils sont menacés de mort. Ils sont accueillis en France et un peu plus de 20 000 sont relégués au camp de Rivesaltes dans le sud-ouest du pays, aussi appelé camp Joffre. Entre 1962 et 1965, près de 150 personnes y sont mortes. Elles ont été enterrées sur place, précisons-le, dans un cimetière de fortune. En 2024, des fouilles mettent au jour des tombes, mais elles sont vides. La municipalité a reconnu depuis avoir déplacé les sépultures en 1986 sans prévenir les familles. 5 d'entre elles ont porté plainte. Reportage à Rambeng.
Entre l'été 1962 à l'automne 1964, le camp enregistre plus de 140 décès, essentiellement des bébés de moins de 2 ans et des personnes âgées.
Neyma Jiménez lit la légende d'une des photos exposées au mémorial du camp de Rivesaltes. Cette fille d'Arki fait partie du collectif qui a déposé une plainte contre X après avoir appris que les tombes du camp Joffre ont été déplacées à l'insu des familles.
Parce que ça a été fait un petit peu à la va-vite, sans nous demander surtout l'accord à nos parents. Aucun courrier qui reflète quoi que ce soit sur cette histoire. J'ai tout su en 2019, quand il y a eu l'inauguration de la stèle de ces enfants décédés au camp de Joffre.
Nicole Gougache fait partie, elle aussi, des plaignants. Devant une photo montrant des tentes dans lesquelles ont vécu des Harkis, elle évoque la mort de sa grande sœur Aziza.
On se demande combien de familles il y avait dans ces tentes. En tout cas, ça me rappelle que ma maman a accouché dans le camp des Rivesaltes et l'enfant, qui avait quelques jours, a vécu dans ses tentes. Et ses tentes, très 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 mal, carrément, la neige passait à travers. Et ma sœur est décédée dans le camp en mars 63.
Et quand Nicole Gougache apprend que les restes de sa sœur ne sont plus dans le camp des Rivesaltes depuis 1986, elle et sa famille se sont sentis trahis.
Encore une fois, on nous cache les choses. On est quand même en 1986, on n'est pas en 1963. Je dis bien 1986. On pouvait nous informer, puisque le registre des naissances est bien à la mairie de Rivesaltes avec les décès. Donc, dans notre livre de famille, il est bien écrit Aziza, née le 27 mars, décédée le 29 mars 63. Donc, on pouvait nous informer. Pourquoi cela n'a pas été fait ? Et qui est à l'origine de tout cela?
Pour avoir des réponses, 5 familles ont déposé plainte. Maître Antoine Horry du barreau de Paris est leur avocat.
Effectivement, elles considèrent que les réponses qui leur sont apportées ne sont pas satisfaisantes. Elles ont besoin de comprendre pourquoi tout ça a été fait dans ces conditions. Je rappelle quand même que cet épisode assez regrettable et même macabre a été découvert de manière fortuite. Il se pose la question de pour quelles raisons tout ça a été fait dans leur dos et pourquoi ils ont appris cet épisode fortuitement.
En attendant une réponse de la justice, les milliers d'ossements de Harkis restants et retrouvés dans des cartons au cimetière de Rivesaltes sont en cours d'analyse à Marseille. André Bascou, maire de Rivesaltes, qui avait signé à l'époque les documents du transfert des tombes, est toujours en poste. Sollicité par RFI, il n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet.
Un reportage signé Aram Beng.
Le journal des Outre-mer.
À la une de cette édition, la Nouvelle-Calédonie et la mobilisation des agents pénitentiaires ce lundi matin devant le camp Est. Benoît Ferrand, bonsoir.
Bonsoir. Le camp Est, autrement dit la prison de Nouméa, mobilisation à l'appel du syndicat Force Ouvrière Justice qui tenait, une nouvelle fois, à dénoncer la dégradation des conditions de travail et la surpopulation carcérale. Reportage Valentin Deleforterie.
Surpopulation connue de longue date, près de 600 détenus au total pour 400 places seulement. Dans certaines cellules, les prisonniers s'entassent et pour les surveillants comme Marie-Lou, la crainte d'une nouvelle mutinerie reste vive un an après celle du 13 mai, lors de laquelle 3 agents avaient été pris en otage.
On est à des ouvertures de cellules, à 1 agent voire 2 agents pour 4 détenus dans une cellule, c'est énorme. Vous vous rendez compte, s'il y a une agression, on ne fait pas le poids. Donc oui, pour être honnête, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelque chose qui se reproduise, qu'il y ait une agression sur un surveillant. Et là, le collègue s'en est sorti, mais à l'avenir, qui dit qu'on n'aura pas un mort sur la conscience?
D'après Force Ouvrière, les surveillants ne sont pas les seuls en sous-effectif. Cela concernerait également le personnel technique et administratif. Alors forcément, tous les regards se tournent vers le projet de nouvelle prison. Le secrétaire général adjoint de FO Justice, Aloisio Tamolé, place beaucoup d'espoir dans ce site qui doit en principe être livré en 2032 à Ducos.
Ça permettra de désengorger, répondre donc aux problèmes au niveau de la surpopulation et permettra de réduire les tensions au sein du CP Nouméa.
Mais vous n'avez pas de visibilité sur sa construction?
Tout à fait, on interpelle donc les instances au niveau politique. Peut-être ils répondront prochainement.
Rien ne dit en revanche que des réponses seront données car depuis l'annonce fin 2023 de cette nouvelle prison, c'est le silence radio de la part de Paris. Le projet, estimé à 60 milliards de francs, devait normalement faire l'objet d'un contrat de développement entre la Nouvelle-Calédonie et l'État.
Manuel Valls est en Guyane, l'occasion pour l'ancien Premier ministre et actuel ministre des Outre-mer de se pencher sur une problématique hélas bien connue en Guyane, celle de l'orpaillage illégal, fléau économique et environnemental, mais fléau difficile à maîtriser dans un département immense, recouvert aux 4/5 par la forêt tropicale et enfin bordé à l'est, à l'ouest et au sud par des frontières, on va dire, assez poreuses. Manuel Valls est au micro de la Première Guyane.
Un appel à manifestation d'intérêt sera lancé en juillet pour installer des opérateurs légaux. Nous faisons en lien évidemment avec le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci. Mais faciliter l'orpaillage légal suppose de combattre l'illégal, ces pilleurs de ressources et qui empoisonnent aussi, à travers le mercure, les cours d'eau. Il y aura dans quelques mois, en septembre, un décret instaurant un contrôle de transport de matériel utilisé pour l'orpaillage illégal et renforçant les obligations de traçabilité, un renforcement du dispositif opérationnel avec notamment la mise en place d'un état-major commun entre les armées et la gendarmerie, et la livraison aussi des 4 hélicoptères Caracal qui viennent remplacer les Pumas, et puis évidemment, grâce à l'arrivée de la nouvelle procureure de la République, une très grande coopération également entre les forces de sécurité intérieure et la justice. Ce combat continue, il est évidemment vital pour la Guyane.
Les festivals, c'est bien pour la musique et la culture, mais c'est également bon pour l'économie. Une étude de la préfecture et de la région Guadeloupe sur les 30 manifestations organisées dans le département des Antilles en 2022 met ainsi en évidence des retombées significatives. Jordi Rayapin.
2022, les 30 festivals guadeloupéens ont enregistré 110 000 entrées, avec une audience majoritairement locale à 92%. Le public est jeune, avec une moyenne d'âge de 36 ans, et près de 2/3 des festivaliers sont des femmes. Les actifs et étudiants sont surreprésentés, tandis que les retraités sont moins présents qu'en Hexagone. Les festivals créent aussi près de 1700 emplois, majoritairement en CDD, et misent sur l'ancrage local. Plus de la moitié des artistes programmés sont guadeloupéens. Côté économie, ces événements génèrent jusqu'à 8,4 millions d'euros grâce aux dépenses des festivaliers. Selon l'étude, la moitié des recettes provient des subventions, avec l'État comme premier soutien. Un euro de subvention serait multiplié entre 3 et 7 grâce aux achats des festivaliers. Des chiffres qui soulignent le rôle clé des festivals tant pour la culture que pour l'économie locale.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Bonne soirée, Benoît Ferrand.
Le conseil santé avec Sounou Assurance.
On choisit ses copains mais rarement sa famille, disait Renaud, le chanteur énervant. Ce soir, le conseil santé va essayer de nous aider justement à trouver notre place dans la famille. Caroline Paré.
Docteur Marie-Claude Gavard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre et psychothérapeute à Paris. Trouver sa place dans la famille, est-ce que c'est quelque chose qui vient naturellement ou qui peut se travailler au fil du temps ?
Alors, pas du tout naturellement, surtout que ça change d'une famille à une autre et ça change par rapport à la personnalité des parents également. Donc, ça se travaille, ça s'analyse et on essaie de comprendre pour diminuer les conséquences négatives, quelquefois présentes et en fait souvent présentes.
Est-ce qu'il y a en général pour la fratrie des places plus compliquées que les autres pour les frères et sœurs ?
Oui, il semble que l'enfant du milieu soit l'enfant le moins investi, sans que les parents le veuillent. L'aîné est le plus investi et le petit dernier est le plus chouchouté. Donc oui, il y a des différences et les milieux de fratrie, alors pour une grande fratrie, mettons 10 enfants, c'est 4, 5 et 5, 6, ils profitent moins de l'attention des parents. Donc souvent, ils ont l'impression d'être moins aimés.
Cette impression d'être négligé, ça peut aussi arriver finalement quand on est l'aîné et qu'on a trop de responsabilités et que finalement, on sent moins d'affection.
Tout à fait. Et ça dépend aussi du sexe de l'enfant par rapport au désir du parent. Donc, il y a beaucoup de causes qui peuvent perturber un petit peu l'harmonie familiale.
Merci, docteur Gavard. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, vos questions à un spécialiste de l'hypertension artérielle, maladie silencieuse qui peut avoir de graves répercussions sur la santé, santé vasculaire, santé cardiaque. La moitié des personnes atteintes d'hypertension ne sont pas diagnostiquées, d'où l'importance du dépistage. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10, temps universel, et quand vous le souhaitez, en podcast, sur l'appli RFI Pure Radio.
Caroline Paré, c'est la fin de 24 heures en France. Merci à Fabrice Viollet à la réalisation et à Luc Bussière à la rédaction en chef. Un petit mot quand même du bac philo. C'était aujourd'hui, ce lundi. 530 000 lycéens de terminale en France ont planché ce lundi. En filière générale, les lycéens avaient le choix entre notre avenir dépend-il de la technique et la vérité est-elle toujours convaincante? Et en filière technologique, sommes-nous libres en toutes circonstances ou avons-nous besoin d'art? Dans quelques instants, la dernière édition d'Afrique Soir avec Zéphirin Quadio. En attendant, direction la Bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones commence la semaine sur un gain de 317 points et remonte ainsi à 42 515. L'indice du Nasdaq, en s'offrant 294 points, finit à 19 701. Les investisseurs jugent que le conflit entre l'Iran et Israël évolue en faveur de l'État hébreu et qu'il est possible que les infrastructures pétrolières permettant l'exportation du pétrole brut iranien ne soit pas détruite et c'est pourquoi la crainte d'une flambée durable des cours du pétrole retombe un peu aujourd'hui. Les marchés d'actions refont une partie de leur plongeon de la semaine passée. Wall Street réagit aussi favorablement aux signaux de Téhéran, favorable à une reprise de négociations sur son programme nucléaire. Rien ne dit toutefois que cette option soit réaliste. Si Israël, par exemple, juge que ses bombardements n'ont pas encore atteint leurs objectifs, on voit aujourd'hui le baril américain de pétrole chuter de plus de 2% pour finir à moins de 72 dollars. Autre preuve de la baisse d'un cran de l'inquiétude générale à Wall Street, le repli de l'or, l'once de métal fin perd près d'1% et revient à 3401 dollars. Le marché obligataire, en revanche, souffre toujours. Le rendement du T-bond à 10 ans remonte à 4,46, car la probabilité d'une baisse de taux directeur par la Banque centrale américaine avant l'automne recule, puisque la crainte d'une récession aux États-Unis, qui aurait été déclenchée par un choc pétrolier, retombe un peu. L'euro s'apprécie à peine à 1,1554. L'indice Dow Jones reprend 0,8%, le Nasdaq regagne 1,5%.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Mali, se dirige-t-on vers une présidence à vie du chef de la junte? Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi accordant au général Goïta un mandat de 5 ans, renouvelable, sans élection, jusqu'à la pacification du pays. On en parle.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.
RFI Planète Radio, en partenariat avec l'Institut de Recherche pour le Développement, lance l'édition 2025 du concours Hip-Hop.
Alors, prenez vos smartphones et captez le ressenti de celles et ceux qui affrontent au quotidien les conséquences des changements climatiques et environnementaux.
Envoyez vite vos vidéos de 3 minutes maximum à concours.epop.network.
Vous avez jusqu'au 12 septembre pour participer.
Maintenant, à vous de jouer.